stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission mensuelle consacrée au dossier du métal, testament, ancien ou nouveau. Il est 21h01 à la pendule de Radio Campus Tour. Vous êtes en la compagnie de Monsieur Jean-Pierre, du Masque et l'Enclume, et...
Et Monsieur X, et pour une fois on est en direct, donc oui, profitez-en.
Habituellement on n'est pas en direct, mais on n'a pas pu concilier nos emplois du temps, donc on est en direct. On n'a toujours pas de générique, en fait, chaque fois que l'on est à l'antenne, le générique s'adapte au thème de l'émission. Et là, on va aller en Californie, je crois.
Voilà, Californie du Nord même, pour être plus précis. Donc, la fameuse Bay Area, Oakland, San Francisco, Berkeley, et puis il y a sûrement d'autres villes. Mais voilà, donc, nord de la Californie. Et on va démarrer avec...
On va se focaliser sur la fin des années 80, début des années 90. C'est une scène musicale métal qui était très, très prolixe. Elle a été construite...
Oh, fin des années 80, je dirais plus large que ça.
Oui, c'est vrai. Elle a été construite par Exodus et Metallica. C'est vraiment ces deux groupes-là.
Sachant que Metallica est un produit de...
D'importation,
voilà.
On peut le dire. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à percer là où ils étaient localisés. Ils ont été bien mieux accueillis dans la Bay Area. On va donc débuter avec un premier choix de Mr. X, un choix que j'avais fait également. C'est assez drôle, puisqu'en fait, on avait convergé sur ce groupe-là.
Alors, je me souviens d'une interview de Metallica, justement, où il se moquait un peu, enfin, vaguement, enfin, Lars Ulrich se moquait un peu du batteur, en disant que oui, il a 12-13 ans, il est petit pour etc. On va parler, bien entendu, de Death Angel, hein, qui ont démarré très, très, très jeune dans la Bay Area. Et on va écouter un morceau donc du premier album qui s'appelle The Ultraviolence, si je me souviens bien. Mais nous, on va écouter Virtuous Souls donc de Death Angel, sachant que ça a été réédité sur Cherald Records. Un cousin de Monsieur X en avait parlé dans sa émission du vendredi soir. Donc Death Angel, Virtuous Souls. Regardez ouais. Le clip d'ailleurs.
Oui, oui, et puis surtout, gardez en tête qu'à l'époque, donc on est en 88-89, ils ont moins de 20 ans en moyenne
87,
d'âge. 87, ils ont moins de 20 ans. Voilà, donc c'est, vous allez voir le talent qu'avaient ces jeunes garçons à l'époque. We'll be right back.
C'était donc Death Angel vs Souls, et je pense que monsieur Jean-Pierre va vous évoquer ses souvenirs de tournée, il a assisté à la rencontre de deux tournées.
Ouais, ça va pas me rajeunir ça, mais oui, j'avais eu l'occasion de voir les Death Angel en 89 à Lyon, et c'était deux tournées en fait qui se retrouvaient, deux tournées qui parcouraient l'Europe de façon différente. Donc il y avait la tournée Death Angel Forbidden, et il y avait une autre tournée, DRI et Corrosion of Conformity, et les quatre groupes en fait avaient joué à Lyon. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de discuter un peu avec les musiciens de Death Angel, et c'est vrai que c'était des gosses quoi, ils étaient plus jeunes que moi, ce qui était quand même très frustrant, parce que moi j'étais dans le public, et eux sur la scène. On poursuit donc avec un groupe qui était justement à l'affiche ce soir-là, c'était Forbidden. Forbidden et Death Angel, ils font un peu partie de cette deuxième division des groupes de la Bay Area. Ils ne font pas partie des quatre grands, cinq grands dont on vous parlera aussi.
Bah, mais, ils sont arrivés plus tard aussi.
Oui, enfin ils étaient en même temps, mais ils ont émergé un peu plus tard, quoi. Je vais vous parler donc de Forbidden, groupe qui existe encore, mais qui a connu son sommet créatif au début des années 90, hein, avec les deux premiers albums. Le premier qui s'appelait Forbidden Evil, d'ailleurs le groupe initialement s'appelait Forbidden Evil. À noter pour les gens qui aiment les anecdotes qu'ils ont contenu dans leur sein très peu de temps, mais il y avait Rob Flynn qui a contribué au groupe, il jouait avec eux. Rob Flynn qui allait fonder après Violent, et surtout pour ceux qui connaissent un peu, c'est Machine Head, le groupe qui l'a fait connaître. Et ils ont eu aussi en leur sein Paul Bostaff à la batterie. Paul Bostaff qui allait partir quelques années plus tard.
Remplaçant de luxe.
Voilà, qui allait remplacer Dave Lombardo dans Slayer. Voilà. Musicalement, Forbidden, c'est un espèce de Judas Priest survitaminé avec des solides guitares hyper techniques. C'est du trash mélodique de très très bonne facture. Là, je vais choisir un extrait du deuxième album, Twisted Into Form, et le morceau s'appelle Infini. Que le morceau s'achève. C'était les Forbidden, extrait de ce deuxième album Twisted Into Form, qui doit dater de 1990. Toujours bien calé sur le 99.5 de Radio Campus Tour ou le www.radiocampustour.com, 21h17 à la pendule magique de Radio Campus, ou alors l'heure que vous voulez si vous écoutez le podcast. Mister X, c'est à toi de nous parler du prochain groupe, un petit groupe je crois. Hein.
Voilà, alors après le mal interdit, on va vous passer la méga mort, hein, si on veut traduire, faire une traduction Google. Donc oui, un très petit groupe avec un guitariste qui entre 82 et mi-83, on va dire, va être l'âme du groupe quand même. En tout cas sur scène, c'était lui qui impulsait, qui donnait l'énergie, alors que le chanteur-guitariste était un peu en retrait, et apparemment il a fallu les tournées européennes pour que le petit James Ash sorte un peu de son, pas de son placard, mais de sa petite réserve. Donc oui, on parle de Megadeth avec Dave Mustaine, donc viré avec perte et fracas. Apparemment les retrouvailles ont été émouvantes là en 2011, là, si on voit les concerts pour fêter les 30 ans. Oui, donc on va parler de Megadeth et du premier album qui était donc, c'était le moment de montrer, entre guillemets, l'étendue des talents, mais surtout la rivalité avec Metallica, hein, puisque là, c'était vraiment l'antagonisme. Hein, Dave avait des choses à prouver, apparemment. Et donc, voici Killing is my business and business is good. Alors, il y a eu deux pochettes. Il y a une pochette qui a été refusée. Et on peut aussi parler de la production. Il y a certaines anecdotes qui disent que l'argent a été plus dépensé en neige, on va dire ça comme ça, que pour l'utilité des consoles. Donc voilà, si vous avez d'autres anecdotes...
Ça s'entend, hein. Même les versions remaster, la production est très très cheap, vous allez vous en rendre compte, mais c'est pas de la faute de Campus, hein. C'est de la faute du disque. Voilà. Il a pas très très bien, et déjà à l'époque il sonnait pas très bien, et c'est pas avec l'âge qu'il s'est bonifié. Allez, tout de suite, Megadeth.
Oh!
C'était donc Megadeth avec le crâne derrière la peau. Je crois que, je ne sais plus, il avait donné une anecdote là-dessus. Ça. Il y avait des hors-séries, je me souviens de hors-séries de Hard Rock Magazine avec les quatre grands, entre guillemets, c'est-à-dire Megadeth, Slayer, Anthrax, Metallica. Je dis grand, entre guillemets, parce que pour moi, le seul groupe vraiment thrash du lot, c'est Slayer. Quand on voit le parcours de Megadeth, de Anthrax surtout...
Bon, et les Metallica aussi.
Metallica, je les mets à part parce que je pense pas qu'eux se soient revendiqués thrash metal de toute façon. C'est les gens, je pense qu'ils leur ont coulé l'étiquette, mais voilà. Enfin bref, ils racontaient des anecdotes un peu bizarres. Dave Mustaine, donc sur l'album. Enfin, il était un peu sarcastique. Je sais plus. Il y a un morceau qui s'appelle Love to Death et il disait oui. En gros. C'est un type qui rencontre une femme, ça se passe mal, je crois qu'elle l'aime pas, donc il la tue, enfin voilà. C'était un peu brut, enfin bon, c'est Dave Mustaine, quoi.
Exactement, Dave Mustaine d'ailleurs qui est devenu très très pieux et très chrétien maintenant, quand on voit d'où il est parti, c'est également assez, assez rigolo, puisqu'il avait fait une crise de nerfs, je crois, il y a quelques années au Hellfest, hein, puisqu'il y avait Dissection qui était prévue, et il avait exigé que les membres de Dissection quittent l'enceinte du festival quand Megadeth joue. C'était quand même assez incroyable. Hein.
Ah, c'est...
Et les gens du Hellfest, je crois, s'étaient exécutés. Voilà.
Bah, j'ai envie de dire, si tes convictions sont établies, tu t'en fous normalement.
Mais
donc
oui,
ça en
mais,
dit long.
Dave Mustaine, c'est comme ça. Allez, ouais. Mais, je pense qu'il y a un petit débat philosophique avec le. Mais d'ailleurs, le chanteur de Dissection allait se suicider quelques années après. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On en parlera à l'occasion d'une autre émission. On revient à la BREA avec Exodus, l'un des groupes emblématiques, hein, de cette scène, l'un des tout premiers à avoir sorti un album. Le premier album s'appelle Bounded by Blood, où on revoit tous, hein, si on a été un peu métalleux, cette pochette avec les deux bébés siamois, l'un qui fume. Enfin, c'est un dessin, hein, je vous rassure. Exodus qui a aussi servi, comment on peut dire, d'entrepôt à Metallica, puisque Kirk Hammett initialement vient de ce groupe-là et a été ensuite aspiré dans Metallica.
Il faut savoir aussi que Exodus démarre en 79, Metallica en 80. Donc si vous voyez la trajectoire des groupes, c'est quand même hallucinant.
Oui, les deux sont vraiment roue dans roue. Il y avait Paul Baloff, le chanteur de Exodus, qui était complètement dingue, hein, qui voulait littéralement tuer les poseurs. C'était pas que un slogan. Hein. Au concert d'Exodus, si vous aviez la malheur d'avoir un t-shirt de Motley Crue, il pouvait vous arriver des choses très désagréables physiquement. Donc c'était assez rigolo, il était complètement dingue. D'ailleurs, il va en mourir aussi, Paul Baloff. Bref, tout ça pour dire que ce premier album était vraiment, vraiment important. Malheureusement pour Exodus, ils vont rester dans la deuxième division toute leur carrière, hein, vraiment dans l'ombre de Metallica, et après ils vont tomber même beaucoup plus bas. On va s'écouter un morceau tiré de ce premier album culte, ça s'appelle A Lesson in Violence.
Ah!
83-84, donc en même temps que le premier opus de Metallica, quasiment, ou pas loin. On parle d'ailleurs de Metallica depuis le début de l'émission. Peut-être il est temps d'en entendre un petit peu.
Alors avant, je précise quand même pour les fans de hardcore que si vous aimez Agnostic Front, il y a le riff du morceau The Eliminator sur l'album Crossover, Cause for Alarm, qui ressemble pas mal à au riff de Lesson in Violence. Donc faites la comparaison. Et puis lisez la biographie de Roger Murray, il n'était pas trop d'accord pour ça, on va dire.
Exactement. Donc là, on va pouvoir parler de Metallica.
Voilà, voilà, voilà.
Bah écoute, c'est à toi. Je vais parler de
donc, un pirate de 85 qu'on va vous passer. Donc, c'était sur la tournée Armored Saints Metallica Wasp. On va écouter le morceau From de Bell's Toll. Pourquoi un pirate? Parce que j'avais pas trop envie d'avoir un truc. Un album officiel, même si, mais j'aurais pu amener Ride the Lightning, mais bon voilà, pirate de Metallica, pour rappeler ce que c'était avant 96, on va dire ça comme ça.
Avant comment, 86
96, 96.
Ah, 96, oui, à l'époque, oui, voilà, c'était autre chose.
Voilà.
Donc là, c'est un pirate d'une tournée européenne
Américaine,
où ils ouvraient pour...
pour Wasp.
Pour Wasp. Groupe We Are Sexual and Perverse, hein, et non pas White Anglo-Saxon Protestant. Et on s'écoute quel morceau? Tu l'as dit peut-être ou pas?
Donc, From the Bell's Toll, et puis Metallica, c'était We Are Alcoholics, je pense, hein, le slogan de l'époque, je crois.
Ouais, je crois. We Are Big Alcoholics. We'll be right back.
Alors, je pense que pour la suite, on va écouter le groupe qui a peut-être donné son nom à l'émission, c'est ça?
Oui, involontairement d'ailleurs, mais effectivement, c'est le groupe qui a donné son nom à l'émission. Le groupe s'appelle Testament. Ça va être un extrait de leur premier album de Legacy. Alors, il faut savoir que le groupe, d'ailleurs, initialement s'appelait The Legacy. Mais ils se sont rendus compte pendant l'enregistrement du premier album qu'il y avait déjà un autre groupe qui s'appelle comme ça. Donc, ils ont décidé de changer de nom. Et la rumeur veut que ce soit Billy Milano de SOD qui leur ait suggéré l'idée. Voilà, donc petite
anecdote. Chuck Billy était déjà dans le groupe ou pas? Je sais
et
plus
ben,
si...
Pas au début, voilà. En fait. Au début, c'est un autre vocaliste qui s'appelle Steve Souza qui chantait dans Testament. Steve
Souza. Ah, qui va retourner dans Exodus après.
Voilà, il va partir de Testament quand Baloff décède et il va aller dans Exodus. Donc, ils se font quand même le plaisir de recruter Chuck Billy sur ses conseils. Hein. C'est lui qui leur recommande de prendre Chuck Billy. Et donc, il va réenregistrer une partie de ce premier album qui est pour moi... le meilleur album de Testament. Bon, après, c'est vrai qu'il a une forte valeur affective parce que c'est comme ça que je les ai découverts. C'est du pur thrash metal. Testament qui existe encore, hein, 27, je sais plus combien de temps, je calcule assez mal, mais plus de 30 ans après, ils sont encore en activité. Pareil, hein, ils ont toujours été à la frontière du gros succès, mais ils n'ont jamais pu accéder à la Division 1 ou de temps en temps, mais après, ils étaient relégués. Ils ont été signés sur une major à un moment, ils ont sorti des albums qui ont mal été travaillés. Là, on est sur le premier album, The Legacy.
Puis Chuck Billy, il a, je ne sais pas s'il continue maintenant, mais il est passé au growling quand même au niveau du chant.
Oui. Bah, il a eu quelques problèmes de gorge, hein. Il a été opéré une ou deux fois. Et il faut savoir aussi que Testament, avec Death Angel, ça a été les premiers Covid-19 compatibles cas. Dans le métal, puisque c'est eux qui, au cours d'une tournée européenne, la dernière tournée européenne, ils ont ramené le Covid. Et d'ailleurs, je crois que le batteur de Death Angel a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Mais voilà, ils ont été un petit peu... Ils étaient contents de leur tournée européenne. Ils ont ramené le Covid-19 avec eux. Voilà. Et on va s'écouter Alone in the Dark, qui est un de mes morceaux préférés de ce premier album de Testament. Trash mélodique, avec des parties de guitare très techniques. Ils ont des gratteux, notamment Alshon Lick, qui est vraiment un très, très bon gratteux. Bref, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu plus de reconnaissance que celle qu'il a eue.
Until the end is near, in my mind I'm holding, my destination lies in my dreams.
Et alors qu'on était en pleine discussion, on parlait politique
alors,
et musique.
Profitons aussi, si vous êtes fan du son de la Bay Area, il y a quand même un bouquin. Alors c'est en anglais, hein, donc c'est sorti chez Basilone Point Press, je crois, enfin Basilone Point. Donc Harold Oimonen et puis Brian Lee. Le bouquin s'appelle Murder in the Front Row par rapport à un passage de, je crois que c'est Bonded by Blood d'Exodus, justement. En gros, c'est Murder in the Front Row, c'est bah, justement pour les poseurs. Hein. Si vous voyez des poseurs avec des t-shirts glam au premier rang, vous savez ce qu'il faut à cette affaire. En gros, c'est le message dominant de Paul Baloff, au début d'Exodus en tout cas. Enfin bref, Murder in the Front Row, un bouquin avec pas mal de photos. Apparemment, ça, le reproche qu'on faisait, c'est qu'ils faisaient les gens, c'était qu'il y avait beaucoup de photos de Metallica. Il faut dire que Harold Oimonen était un proche de Cliff Burton, ceci expliquant cela. Et depuis peu, il y a le documentaire en DVD, donc Murder in the Front Row. Voilà, c'était pour la pub. Il y a Alex Kolnick de Testament, il y a des gens de, il y a même Dave Lombardo de Slayer par exemple, puisque Slayer aussi a fait pas ses premiers pas, mais presque est venu se frotter à l'ambiance de la Californie du Nord. Et anecdote, alors on dit ça dans le documentaire, jusqu'ici Slayer était en mode early black metal, on va dire ça comme ça. Enfin, je dis early pour ne pas dire, enfin pour dire pur, on va dire. Pour être sarcastique sur la vague scandinave. Enfin bref, ils avaient les yeux maquillés en noir, etc. Et je pense que nos amis, la troupe de Paul Baloff leur a dit le maquillage, c'est pour les poseurs, les petits gars. Alors on enlève tout ça. Et donc au deuxième concert qu'ils ont fait, au revoir le maquillage. Et donc Slayer est devenu ce qu'on collait. Petite anecdote donc révélée dans le documentaire Murder from the Dance Floor. On écoutait donc Testament.
C'est exactement ça, Testament, donc groupe que j'aime beaucoup, que vous devez impérativement écouter si vous voulez découvrir un peu ce qui se passait sur cette scène-là. Un groupe qui est encore en activité, mais les meilleurs albums sont les premiers. Après, il y a eu un gros creux fin des années 90, début 2000, et puis après ils sont revenus en forme avec notamment une accélération significative à la fois de la brutalité et des vocaux presque hurlés quasiment par Chuck Billy, qui a aussi eu... en plus du Covid, mais avant, un petit cancer de la gorge. Bref, c'est un survivant, ce garçon.
On poursuit avec un groupe que... Alors, c'est même pas les moins de 20 ans de Papa College, mais c'est vraiment peu de gens...
À part toi.
Voilà, voilà. Peu de gens connaissent, mais c'est un groupe de la Bay aussi. Il s'appelle Stone Vengeance. Alors, c'est un trio à fort taux de mélanine, on va dire ça comme ça.
C'est joliment dit.
Voilà, apparemment ils ont fait que, enfin ils sont en autoprod, ils ont dû sortir peut-être 3-4 albums grand maximum depuis les années 80. Est-ce qu'ils fonctionnent en notation? On pourrait presque dire ça. Donc on va écouter extrait de leur album justement To Kill Evil qui date de 87, le morceau éponyme To Kill Evil.
Mais je crois que t'as pas dit leur nom.
Stone Vengeance, si je crois que je l'ai dit.
Ah, je devais dormir alors. Je réécouterai la cassette. La cassette. Tout de suite, donc Stone Vengeance.
Watch the lightning.
C'était donc la vengeance de la pierre, hein, référence biblique. Pareil pour la pochette, hein, To Kill Evil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien,
c'est beaucoup sur Aigus, c'était quand même très typique de l'époque. Hein. On les retrouvait dans plein de groupes. Forbidden faisait ça aussi. C'est beaucoup moins à la mode actuellement.
Ah bah c'est clair. De toute façon, eux, je pense qu'ils sont dans leur bulle. Hein, j'ai envie de dire, hein, les Stone Vengeance.
Exactement. Bah, en tout cas, un groupe qui gagne à être connu. 21h52. Peut-être le dernier morceau ou l'avant-dernier, on ne sait pas trop, il y a un peu de suspense. On est toujours dans la Bay Area, dans l'émission mensuelle Testament, ancien ou nouveau, avec Mister X et puis Monsieur Jean-Pierre. Et là, on va découvrir, enfin, je vais vous faire découvrir un groupe très peu connu, pourtant qui mériterait d'être connu plus. C'est Mordred. Mordred, un groupe qui s'est formé dans la Bay Area en 1984, quand même, et ils ont vachement galéré avant de sortir leur premier album. Il sortira en 88. Première grosse erreur, ils signent chez Noise Records, label allemand, et là c'est pas une bonne idée, je pense, parce que
là c'est le drame. Ouais,
c'est effectivement le drame, parce que alors Noise Records, c'est un label allemand qui était plutôt connu pour arnaquer les groupes qui signaient chez lui. Il les bloquait pour 7 ou 8 disques et il faisait zéro promo. Donc c'est
surtout qu'un label allemand pour un groupe américain, est-ce qu'ils avaient, je sais pas s'il y avait une distribution, enfin
je sais pas trop. Pourtant le premier album s'appelle Full Games, c'est très très bien. Alors à l'époque c'était très très trash, rentre dedans, mais avec des éléments funk, et c'est l'un des premiers groupes à avoir fait de la fusion. Ils sont arrivés trop tôt, personne n'a compris. Sur le premier opus, il n'y avait pas encore trop d'éléments fusion. Sur le deuxième, In This Life, il y en a beaucoup plus, avec un rappeur, des scratchs. Là, personne ne les a compris. S'en est suivi aussi des problèmes de santé mentale pour le chanteur qui a dû être
interné. Je pense que ça a traumatisé Laurent Ramadier, hein. Ouais. Il y a eu une interview de Mordred.
Je sais pas de quoi tu parles, mais
Je parle de Snake Pit, le magazine, parce qu'en fait il a interviewé pas mal de groupes, et je sais que le passage au funk, c'est pas son truc, je
pense.
Ouais,
d'accord. Mais on le sent quand même, hein, sur cet album là qui est quand même très trash Bay Area, mais vous allez voir, il y a des changements de rythme, des choses un peu funkisantes. Ils vont plus l'explorer dans l'album d'après. Là, c'est donc le morceau qui s'appelle State of Mind, est tiré de ce premier album de Mordred, Fool's Game.
essence of who you really are. Dig deep to your psyche till you find a star. I know it's just a theory with elements of doubt. Don't take it all too serious, it's not what we're about.
L'émission va toucher à sa fin, voire même elle touche à sa fin. Ce premier volet consacré à la scène de la Bay Area, qui en appelle un second, c'est ça ?
Ah bah oui, 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 oui.
Donc on se retrouve le mois prochain. Alors pour ceux qui découvrent l'émission, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses, Testament, c'est tous les premiers lundis du mois de 21h à 22h sur Radio Campus. Donc une thématique particulière qu'on décide entre nous, généralement, dans l'émission qui précède. Donc voilà. Et donc là, on vous annonce, ce sera à nouveau Bay Area. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas de page Facebook. On est comme ça, on est en mode complètement anonyme, donc vous ne pouvez pas du tout nous contacter. On est complètement des dictateurs, en fait. Hein, c'est nous qui décidons. Non, voilà. Il n'y a pas de page à liker. Les podcasts sont mis en ligne sur le site de la radio. www.radiocampus.com. Podcasts sont en ligne. Et puis, n'hésitez pas à explorer les vieilles émissions. Et on va se quitter.
Tout à fait, tout à fait. On vous rappelle aussi que si vous aimez ce style, hein, vous avez lundi, mardi, ça fait boom, comme tu
comme ah oui, exact, la... oui.
Puisque le mardi, vous avez le masque et l'enclume de 22 à 23, c'est ça ?
Exactement, sur Campus. Alors là, on sera plus sur du death ou du black metal extrême nouveauté, voilà. Et puis, Monsieur X a aussi d'autres activités radiophoniques.
Oui, mais c'est pas tout à fait dans ce style.
C'est pas tout à fait lui.
C'est plus dans la suite de Mordred, en fait.
Ouais, voilà. En fait, il faut savoir qu'il est un peu schizophrène. Ils sont plusieurs dans sa tête.
Voilà,
il a tour
voilà.
de rôle. Les personnalités succèdent. Je sais pas si vous avez vu le film Split, mais c'est un petit peu ça, en fait. Ils sont 29 dans le même temps. Donc, la cohabitation est pas simple. Allez, on se quitte. On vous laisse avec, je ne sais pas d'ailleurs, avec Polo, peut-être, notre ami là. La bande.
Soit du funk, soit du reggae, soit de la musique caribéenne.
Voilà, tout de suite c'est Polo.